Retrouvez la NEFA Charente pour son émission mensuelle sur RDC, la NEFA Charente, spécialiste de l'emploi et de la formation en agriculture.
Aujourd'hui, mardi 12 novembre, vous ne vous trompez pas, une fois par mois, vous le savez, nous avons un rendez-vous mensuel avec l'ANEFA, l'Agence nationale pour l'emploi et la formation dans l'agriculture, et nous recevons, comme à l'accoutumée, une fois par mois. Elle est à côté de moi et j'adore la voir. On vous dira pourquoi en fin d'émission, je suis un peu triste aujourd'hui, mais ça sera pour tout à l'heure. Elle est belle, comme d'habitude, elle a toujours le sourire, toujours la pêche à mes côtés. On reçoit Sandrine Boineau. Bonjour Sandrine.
Bonjour à tous, bonjour Bruno.
Moi je suis ravie de t'avoir, comment vas-tu?
Bien, et toi?
Oh bah toujours bien. C'est speed ce matin par contre.
Oui, j'ai vu ça.
Oh,
oui.
Beaucoup d'appels, beaucoup de... on nous demande des choses et tout, mais c'est bien, ça bouge.
Exactement.
Au moins, ça veut dire que c'est une radio qui est écoutée.
C'est une radio dynamique.
Alors, est-ce que ce mois s'est bien passé pour toi?
Très bien.
Ouais.
Dynamique aussi.
T'as fait plein de choses.
Énormément, beaucoup de déplacements.
Ouais.
Et puis voilà, je suis heureuse d'être avec toi et les auditeurs de RDC aujourd'hui.
Alors dis-moi, juste deux, trois mots quand même avant qu'on démarre notre émission. Comment s'est passé à Cognac la semaine dernière, le rendez-vous?
Alors, le Forum Viti s'est très très bien passé, il y a eu beaucoup de monde, je ne sais pas si les auditeurs ont entendu le message que tu as
si.
Pu évoquer
éventuellement.
On avait diffusé aussi l'information sur notre profil Facebook et notre page Facebook, et puis on a reçu évidemment beaucoup de monde à notre stand.
Donc vous étiez tous contents, il y avait beaucoup de monde,
il
ça a marché.
Beaucoup de monde, ça a marché, mais c'est forcément un forum qui est incontournable justement sur le secteur de Cognac.
Et vous étiez à l'espace 3000.
On était à l'espace 3000.
Voilà, c'est ça. Eh bien, content de savoir au moins ça, parce que comme on en avait parlé, on n'avait pas le retour, alors il fallait que ce matin, on l'ait.
Voilà.
Impeccable. Nous ne sommes pas seuls, ma Sandrine.
Oui.
Et oui.
Aujourd'hui, nous avons pour invité Baptiste Lanterna, qui est agriculteur à la ferme des Templiers à Fouquebrune. Il va pouvoir nous parler de son métier et de toute la diversité qui se trouve sur son exploitation.
Alors, bonjour Baptiste.
Bonjour.
Ça va bien?
Bien et vous?
Oh, impeccable. Alors, on est presque une heure ensemble, mon cher Baptiste, pour parler ensemble, effectivement, non seulement de votre métier, mais surtout aussi de votre exploitation. Alors, on commence peut-être déjà par le parcours. Comment vous êtes arrivé à faire ce que vous faites aujourd'hui? Ça sera pour tout à l'heure. Mais du coup, comment vous avez commencé? Voilà. Qui est Baptiste?
Et alors, comment dire, vous voulez le parcours scolaire?
Ouais, ce serait bien justement qu'on voit un petit peu comment tu es parvenu
le cheminement aujourd'hui à
là où tu es agriculteur aujourd'hui, oui.
Alors j'ai pris le parcours le plus long en plus. J'ai commencé par un CAP, BEP, bac, BTS, tout par apprentissage. D'accord. Après j'ai été technicien agricole dans plusieurs négoces et coopératives. Après, j'ai fait
CAP, BEP, bac, BTS, c'était quel type de formation? C'était sur la viticulture?
Ouais, tout en production végétale.
D'accord.
Ouais, je suis resté assez ciblé sur la production végétale.
D'accord.
Voilà.
Ok.
Et après, j'ai fait contrôleur pulvé pendant 4 ans. Et après, la crise de la trentaine est arrivée et j'ai voulu m'installer agriculteur.
Alors tout ça, ça a pris beaucoup d'années alors? Combien en tout à peu près?
J'ai travaillé à l'extérieur 8 ans avant
8 ans
de m'installer, ouais.
Donc il faut 8 ans, Sandrine, pour démarrer quand même quelque chose de vraiment concret, bien.
Je pense que c'est aussi, oui, une manière aussi de s'expérimenter, d'avoir d'autres expériences, de voir aussi d'autres
façons.
C'est
ça, de voir d'autres choses et pas de sortir des écoles et aller directement s'installer.
Voilà.
Ça permet d'ouvrir les œillères un peu.
Oui, oui, et de bénéficier d'une autre manière, voilà, de faire de l'agriculture, de voir des choses. Et puis chacun apporte aussi son savoir-faire, ses connaissances.
Mais alors, une fois que vous avez eu tous ces diplômes, je suppose que ça ne suffit pas pour se mettre à son compte. Quelles sont les filières par lesquelles vous êtes passé?
Eh bien, je suis passé par le point info installation de la chambre d'agriculture. Et là, on a fait le stage 21h et l'autre, je ne sais plus. Enfin, faut passer par la chambre d'agriculture, en fait, pour faire
toutes les démarches.
Les étapes, ouais, voilà, le parcours à l'installation. Et après, il suffit juste d'avoir d'avoir un bac agricole pour pouvoir s'installer et prétendre aux aides JA.
Mais les aides, c'est peut-être pas suffisant pour s'installer. Il faut aussi quand même des moyens financiers.
Ah, il faut un bon banquier aussi.
Voilà, c'est ça.
Il faut un bon projet, exactement. Mais la chambre est là pour nous aider à l'élaborer.
Ouais. Et lorsque vous êtes en session comme ça, vous êtes nombreux? Ou vous êtes à chaque fois, c'est des parcours individuels?
C'est des parcours individuels, mais on est une 15-20 à suivre la formation. Mais il y en a plusieurs dans l'année. Donc après, combien il y en a l'année, je ne sais pas.
Et il y en a peut-être qui chutent en cours d'année, qui trouvent que c'est peut-être un peu trop compliqué ou pas fait pour eux peut-être, non ?
Oh, ça doit bien arriver, oui.
Ouais.
Des gens qui se heurtent à des choses qu'ils ne pensaient pas.
Oui, parce qu'il y a des idéalistes, il y a des, donc il s'aperçoit qu'il y a une différence entre le rêve et la réalité, et que forcément il peut y avoir un fossé entre les deux. Donc après cette formation, là ils prennent toute l'ampleur et la réalité du terrain, et que c'est là où ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas monter leur projet. Donc ils prennent un peu plus de recul et de maturité, et puis ils reviennent avec autre chose.
Et au début, est-ce que ça arrive, Baptiste, par exemple, que des agriculteurs se mettent à leur compte et avec la charge de travail énorme que ça représente, se disent « Oh non, finalement, c'est pas fait pour moi » et ils arrêtent. Non, ça n'arrive pas, ça.
Je pense que, enfin, actuellement, ça peut arriver. Je pense qu'on a plus de gens, même dans le privé, des gens qui font une carrière, comment dire, qui rentrent à 18 ans dans une entreprise et qui sortent pour la retraite, quoi. Et je pense que même dans l'agriculture, aujourd'hui, il y a des gens qui sont capables d'arrêter et de partir sur
et de rebondir.
Ouais, de rebondir.
Et l'effet inverse, ouais, c'est-à-dire qu'on peut voir des ingénieurs qui arrêtent leur métier et venir dans l'agriculture.
Voilà, ouais, oui. On n'a pas de...
On n'a plus de parcours, justement, effectivement, comme le disait Baptiste, et justement, on fait d'un seul trait dans une même entreprise. Avec les années 80, on nous a appris quand même à se diversifier
et à s'adapter.
Et à s'adapter, effectivement, aux besoins du territoire et peut-être à ses propres besoins aussi.
Bien sûr.
Avec des crises de la trentaine, notamment.
On n'en a qu'une.
Alors, vous êtes à votre compte, Baptiste. On revient en arrière. Hein. Vous êtes à votre compte, ça y est, l'entreprise commence. Vous avez démarré comment ? Avec quoi comme animaux, etc. D'abord, vous faites quoi en même temps ?
L'exploitation est très diversifiée. Hein. Il y a une partie maraîchage avec pommes de terre, poireaux, betteraves rouges, enfin des légumes de plein champ, des légumes de saison, des courges aussi, enfin potirons et tout ce qui va avec. Il y a des grandes cultures, essentiellement basées sur l'alimentation humaine. Après, enfin le blé tendre, blé biscuitier, des blés anciens, de l'avoine nue, du seigle, de l'épeautre pour faire de la farine. On a les légumineuses, les pois verts pour les pots cassés, les pois chiches, les lentilles. Et après, on a le maïs et les métailles pour nourrir les animaux, parce qu'on a aussi un élevage de porcs noirs, de type gascon, qu'on élève à la ferme. Enfin, on est naisseur, engraisseur, et on transforme tout à la ferme, et on vend en détail à la ferme.
Les porcs, gentils ou méchants ? Parce
très
que
gentil.
Des fois, on voit à la télé.
Adorable.
Très gentils, adorables.
Des fois, ils vous courent après, ils veulent vous mordre.
Non.
Non, bah après, si on les embête, hein, ils savent se défendre.
Oui, ils sont adorables.
Donc, en fait, c'est très diversifié tout de même.
Oui.
Et ouais. Et vous avez de l'aide pour ça, vous ne faites pas tout seul.
Non, on est deux à travailler sur la ferme, enfin Antoine, mon associé et moi. Et...
Bonjour Antoine.
Il nous écoute peut-être.
Bonjour Antoine.
Et ponctuellement, on a des stagiaires pour leur faire découvrir le métier et nous aider aussi sur l'exploitation.
Des stagiaires qui viennent, vous les faites travailler comme un salarié ou
non, on est pour ça, pour leur faire découvrir, on n'est pas là pour les faire travailler, quoi. Enfin, on les fait travailler dans les tâches qu'ils veulent accomplir eux, mais c'est plus pour leur faire découvrir le métier. Le métier, quand même.
D'accord.
Pas pour les faire travailler.
Oh, ils pourraient travailler, donner un coup de main. Hein, pour
oui, donner un coup de main, oui. Il y en a, c'est toujours intéressant de partager son savoir-faire.
Bien sûr. Puis on apprend en faisant.
Oui, on même des fois, mieux. On apprend d'un stagiaire, c'est ce qui est intéressant.
Et oui.
Ah oui. Ouais, c'est bien là, ce qu'il vient de dire. On peut apprendre aussi d'un stagiaire.
Ouais, parce vrai. Que des fois, on fait d'une certaine façon, alors que d'une autre, on gagne du temps. Et c'est bien d'avoir un regard extérieur aussi sur l'exploitation.
Oui, tout à fait. Les porcs gascons, je voudrais revenir, l'élevage se fait en combien de mois ?
Entre la naissance et l'abattage, il y a entre 14 et 16 mois à peu près. C'est une croissance très lente.
Ah oui, on n'est pas du tout sur un système classique comme on connaît au bout de 6 mois.
Ah, pas du tout.
D'accord. Ils vivent dehors ?
Dehors. Ils ont des bâtiments et ils ont accès au parc et des bois... À leur gré, en fait.
Ce qui veut dire qu'ils rentrent et ils sortent comme ils veulent.
Voilà, exactement. Ils font ce qu'ils veulent de la journée, quoi.
Ah. Ouais, c'est intéressant, parce que ce sont quand même des jeunes et qui ne sont pas forcément dans la production intensive. Et la particularité sur votre exploitation à Antoine et toi, c'est l'agriculture biologique.
Tout est bio sur la ferme, exactement.
Tout est bio, voilà.
C'est pour ça l'ampleur du bio que ça prend, hein, depuis quelques temps. On n'entend parler que de bio, pratiquement.
Alors, comment c'est venu, justement, cette démarche vers le bio ?
Alors, le bio est venu... Alors, déjà, moi, quand j'ai fait mon BTS, en 2007, j'avais pris option agriculture biologique. Donc déjà, on était formaté un peu au bio. Enfin,
j'ai fait mes études. Ça parlait de bio en 2007 déjà.
Déjà, oui, oui. Moi, ça remonte à quelques années. Donc pour moi, c'était une évidence de le jour où j'allais reprendre une ferme, qu'elle soit en bio, en fait.
Bien sûr.
Et Antoine était auditeur, auditeur bio pour un organisme de certification.
Donc vous étiez complètement dans le bio tous les deux.
Voilà. Et donc du coup, quand on a repris la ferme, on l'a pris en bio.
D'accord. Donc oui, comme l'esprit, enfin le demander. Tu le remarquais, justement, depuis 2007, il n'y avait peut-être pas forcément une grande sensibilisation du consommateur.
Oui, parce que moi, je ne me rappelle pas. Le bio, on entend parler vraiment depuis quoi, 3 ans?
Oui, où ça prend un essor assez important.
Ouais, 2015, par là.
Voilà, oui, c'est ça, ouais, 3-4 ans.
Ouais.
Et cette sensibilité, donc, t'es venu, tu es issu d'une famille d'agriculteurs?
Mes grands-parents étaient agriculteurs, mais pas mes parents.
Et eux, ils étaient dans le bio sans l'être réellement?
Pas forcément, ouais, comme tout le monde, on faisait attention, et puis voilà.
Enfin, d'accord. D'accord.
Non, c'est moi que j'avais choisi mon BTS comme ça. Et...
D'accord. Cette sensibilité, c'est venu comment pour toi?
Innée.
Ouais, peut-être, parce que finalement, j'ai choisi cette option-là et ça me paraissait une évidence pour moi, mais pourquoi, finalement, je ne sais pas trop.
Tu t'es renseigné aussi par rapport aux exploitations dites naturelles, simples, sans bio et avec bio. Est-ce que c'est beaucoup plus dur, finalement, de cultiver avec bio que sans?
Oui, c'est complètement différent, parce que tout mon cursus scolaire, je les ai fait sur des exploitations conventionnelles, et aujourd'hui en bio, c'est complètement différent. C'est,
ouais.
On reprend un peu les techniques de travail des anciens.
Donc ça vous donne plus de boulot?
Il y a plus de travail, et il faut du matériel un peu...
récent.
Récent, pas forcément, mais spécifique, et des techniques de travail qu'avaient les anciens quand ils n'avaient pas d'herbicides. Quoi.
Mm-hmm.
Qu'on n'invente pas grand-chose aujourd'hui, finalement.
Ah, ouais.
Non, c'est
retour aux sources.
C'est ça, on peut dire ça comme ça. Ouais.
Retour aux sources tout en s'appuyant aussi sur
les techniques actuelles. Quoi.
Voilà, des techniques actuelles. Dont tu as quoi comme matériel sur ton exploitation?
C'est vrai que le désherbage, plus radical entre guillemets, c'est la charrue.
D'accord.
Après, on a les herses plates pour faire des faux semis qu'utilisaient les anciens. Hein. Après, on a une hercétrie qui permet de faire des désherbages mécaniques sur des cultures qui sont déjà levées. On fait un système, ça arrache juste le dessus, donc les petites plantules, ça les déterre et elles sèchent. Après, il y a les bineuses pour les plantes sarclées, type maïs, soja et haricots et tout ça. Et après, on a en dernier recours, on a une essimeuse qui permet de couper tout ce qui monte à graines et qui dépasse la culture pour éviter que ça graine justement.
D'accord. Okay.
C'est spécifique après.
D'accord. On ne trouve pas ça n'importe où.
Non, il n'y a pas beaucoup d'exploitations qui en ont, oui.
Ok. Il y a des vidéos aussi que tu as mis sur ton site.
Sur la page Facebook.
Et sur la page Facebook, où on peut voir effectivement, tu plantes des petits pois ou des poireaux.
Oui, on essaye de faire vivre l'exploitation pour les gens qui veulent voir comment on travaille, ce qu'on fait. Dans les champs ou avec les animaux, quoi.
D'accord.
Ce qui veut dire qu'en fin de compte, l'exploitation est visitable.
On peut
pour
la visiter,
public,
ouais. Oui.
Et qu'il y a sûrement des ventes directes.
C'est ça, mais il y a une boutique où on vend les produits à la ferme, tous les vendredis, de 9h à 19h. Là, on peut y trouver du porc au détail, des conserveries, des pâtés, grillons, plats cuisinés,
ouais.
De la salaison, des légumes. Et après, il y a du pain, des brioches, de la farine, parce qu'on fait du grain au pain.
D'accord.
On avait un vieux four à bois sur la ferme, on l'a remis en état, et on s'est mis à faire du pain aussi.
C'est bien ça, avec de l'épeautre?
On fait essentiellement blé pour le moment, et on va se mettre à faire l'épeautre et seigle.
Ah, oui.
Mais tu nous parlais d'Antoine tout à l'heure, mais je suppose que vous n'êtes quand même pas deux pour tout faire. Hein.
Si, si.
Que deux,
que
pour
deux.
Tout
de...
C'est affolant, Sandrine.
Il faut des journées bien organisées.
Ouais, bah justement, une journée organisée, c'est quoi une journée type, par exemple?
Une journée type, on commence déjà par quand on arrive à soigner les animaux, les cochons. Et après, chacun part à ses occupations, soit Antoine part essentiellement au maraîchage et il m'aide dans les terres, et moi je suis plus sur les céréales. Et après, c'est suivant les saisons, après c'est pas facile, mais souvent on commence par faire les animaux, après on part sur les terres, et on finit la journée par les animaux quand même.
Et la journée commence et finit à quelle heure?
On commence à 8h et on finit vers 6h30, 7h.
Ah oui, quand même. Hein.
Oui, ça fait des belles journées, parce qu'entre midi et 2, on s'arrête qu'une heure à peine.
Et la vie privée autour de ça, elle existe quand même ou pas?
Oui.
Ouais. Oui, oui. Tu arrives quand même
oui, on arrive à décrocher le dimanche quand même.
Avoir du temps, aller au cinéma ou quelque chose comme ça.
Ça arrive.
Parce qu'il faut savoir le faire aussi. C'est
on arrive à faire la part des choses, à travailler quand il y a des coups de bourre, à faire des journées bien chargées et après à se dégager aussi du temps.
Du temps. Ouais. Ouais, ça c'est important.
Il faut aussi
c'est
quand
bien.
Même. Ouais.
Mais comme tout chef d'entreprise, de toute façon, quel que soit le secteur d'activité, on est amené à faire des journées qui ne sont pas 7 heures par jour. Hein. Ça implique forcément un peu plus de temps, un peu plus d'implication, et parfois, pour certains, c'est même 7 jours sur 7. Il faut savoir ce qu'on veut. Soit on se met à son compte, et puis là, oui, on fait du boulot, beaucoup de boulot, ou soit on est salarié, on est à 35 heures par semaine.
Nous, on est salariés, on est bien.
Chaque chose a ses avantages et ses contraintes.
Tout à fait. Voilà. Alors, on parlait de matériel tout à l'heure, Baptiste. Oui. Est-ce qu'on peut avoir, pour ceux qui s'y connaissent beaucoup plus que moi, c'est sûr, en matériel, les différents matériels que vous utilisez, ça peut être quoi?
Ah, il l'a cité.
On l'a fait l'autre point tout à l'heure.
Ouais.
Oui.
Avec la bineuse.
La bineuse. Tous les noms, on a dit tous les noms.
Oui,
ah oui c'est
on
ce
l'a
que,
dit.
Ouais.
D'accord.
Tout à fait.
Ben
tout
voilà,
fait.
J'étais ailleurs. Est-ce que vous voulez qu'on se repose avec une petite musique?
Voilà, c'est ce que j'allais te proposer.
Alors, la première chanson, eh bien, écoutez, c'est toujours le choix hein, de Sandrine, parce qu'elle nous envoie comme ça des chansons. Elle dit, tiens, j'aimerais bien qu'on écoute ça. Alors, moi, je dis, bah, écoute, d'accord, ma belle, il n'y a pas de problème. C'est Clara Luciani qu'on va écouter. C'est pas La Grenade, on a trop entendu. Maintenant, c'est Nu, ça s'appelle. Et c'est pour vous sur RDC. Ça danse dans le studio, que voulez-vous? C'est le dernier Luna Clara, plutôt, Clara Luciani, avec Nu. J'ai pas de notes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je travaille sans filet, comme ça. Nous avons, en tous les cas, vous êtes bien sur RDC, 93.4 du côté d'Angoulême et les alentours, 92.5 du côté de Saintes et les alentours, et partout ailleurs, mais partout, grâce à Internet. Et je sais que Sandrine nous écoute des fois par Internet, oui. Avec rdcfm.com. Nous recevons avec la NEFA, avec Sandrine Boineau, Baptiste Lanterna, agriculture sur la ferme des Templiers qui se trouve sur la commune de Fouquebrune. Il est en train de nous parler de son métier, de son exploitation, de son expérience et tout. Et justement, Sandrine est également là et lui pose la prochaine question.
Oui, alors Baptiste nous disait tout à l'heure que ton exploitation, c'était une exploitation biologique. Est-ce qu'avant cela, c'était une exploitation biologique ou conventionnelle ?
C'était une exploitation conventionnelle en fait. Était tenu par le père et l'oncle d'Antoine.
D'accord.
Ils l'ont converti en 2016, un an avant qu'on s'installe, du moins pour gagner une année de conversion.
D'accord.
Parce que quand on passe en bio, on a 3 ans de conversion.
Ah oui, 3 années pour pouvoir ensuite être labellisé en bio.
Voilà, exactement. Mais c'est 3 années où on produit
De l'avant bio, non,
c'est pas non, ça. Enfin, non, on produit avec
les conditions du bio,
voilà, exactement, et on vend moins cher en fait. Mais on a D'accord. des aides pour pallier, on a l'aide de la conversion pour pallier un peu au manque à gagner, quoi.
Oui.
Entre guillemets.
Oui, parce que comme vous vendez moins cher, donc voilà, forcément il faut s'y retrouver cher, économiquement. Voilà. Et à ce moment-là, vous avez une subvention.
C'est... Voilà, une subvention, exactement.
Ouais. Ok.
Et après, on vend en bio, et là. On retrouve de la valeur ajoutée aux cultures.
Donc ça a été une démarche de l'oncle, du père et d'Antoine pour oui. qu'il y ait... Quelle a été justement quand même la démarche mentale hein, pour eux, parce qu'ils avaient toujours été dans le conventionnel.
Ouais, c'est qu'on leur a fait juste la dernière année pour que nous, on puisse gagner une année en fait.
Ok.
Comme ils arrivent à la retraite au 31 décembre.
D'accord.
Ils avaient fait la première année de conversion, comme nous, on n'avait que 2 années à faire en fait.
D'accord. Est-ce qu'on a autant de rentabilité quand on fait avec le bio que le non-bio ?
On a de la rentabilité quand même. Bon, après, nous, on est en 3e année d'installation.
Ouais.
On n'a pas trop de recul, mais les chiffres ont l'air d'être prometteurs quand même.
D'accord. Donc, ça veut dire qu'en termes de productivité, on se retrouve effectivement avec le même volume ?
Non, on a moins de volume, mais on a plus. Enfin, on a moins de rendement que sur des cultures où c'est similaire. Hein.
Ah.
Contrairement à ce qu'on pourrait entendre.
Sur quelle culture, par exemple ?
Comme du blé, on est à 40 quintaux. On fait moitié moins, enfin pas moitié moins, mais presque. Mais sur une année un peu sur du maïs, on arrive à faire 70-80.
D'accord.
Mais après, le prix de vente derrière est plus intéressant. Donc, après, il y a beaucoup de travail, tout ce qui est désherbage mécanique. C'est vrai que ça fait des pics de travail à faire. Et où des fois, les fenêtres au printemps pour faire tout ce qui est mécanique dans les champs, c'est pas forcément très facile, quoi.
Ok.
Le temps n'est pas forcément toujours avec nous.
Oui, ça c'est sûr. Alors, quels sont justement, parce que pour une agriculture biologique, ça permet de se remettre en question, et vous n'avez pas du tout les béquilles du conventionnel qui permettent de solutionner les problématiques, qui demandent de chercher, d'innover quelque part. L'agriculture biologique, ça peut être le fer de lance de l'agriculture de demain. Et quelles sont vos innovations que vous avez apportées sur la ferme pour justement pallier l'ambroisie, comme on parlait justement tout à l'heure, pallier ces plantes qui sont assez destructrices pour les récoltes, pour les cultures? Qu'est-ce que vous mettez en place?
Là, c'est compliqué, mais on essaye de faire beaucoup de rotations en fait, de faire énormément de rotations, des faux semis pour perturber un peu les levées en fait. Si, en classique, par exemple, là, les blés sont... Il y en a qui les ont semés, nous on retarde déjà naturellement des semées début décembre. En perturbant un peu le cycle des plantes, on arrive à les dérégler et à pallier à ce problème-là. Et après, il y a les techniques avec les outils, quoi, ou les outils à dents pour scalper, même si on a des terres assez superficielles, c'est pas forcément toujours facile.
Mm-hmm.
Mais ouais, c'est assez complexe, on va dire, la gestion des mauvaises herbes. Mais faut pas avoir peur de détruire des fois des parcelles qui sont envahies de mauvaises herbes, quoi, en fait.
Est-ce qu'il faut avoir une meilleure connaissance de l'agronomie, la connaissance du terrain sur lequel on est, parce qu'on va avoir une sorte de terrain qu'on aura à Fouquebrune qu'on ne va pas retrouver forcément à Ruffec?
Ah oui.
Il y a forcément...
Des terres plus dures que d'autres, tu veux dire?
Voilà, oui, peut-être un petit peu plus calcaire que d'autres, ou peut-être plus acide que d'autres.
C'est qu'en bio, en fait, on retravaille un peu avec le vivant, finalement. Je retrouve mes cours d'agronomie que j'ai fait en BTS en 2007. Mais on redécouvre tout ça et le métier de paysan, quoi, retravailler avec la terre, le vivant. On n'a rien derrière pour pallier une erreur finalement.
Alors c'est quand toujours... tu dis le vivant, c'est quoi que tu inclus dans ce vivant?
Bah, le sol finalement.
Le sol, le sol. Qu'est-ce qu'il y a dans le sol?
Bah, toute la vie microbienne, tout ce qu'il y a dans le sol, enfin tout ce qui est là.
Les vers de terre peut-être.
Les vers de terre, la faune sauvage, tout ce qui peut nous aider finalement à réguler les petites graines aussi, parce que les petits oiseaux en mangent aussi, hein. Enfin même toute proportion gardée, mais ça fait toujours de la régulation aussi, hein, entre guillemets.
Ouais. Alors du coup, en termes d'innovation, t'as pas apporté quelque chose qui pouvait justement un petit peu bousculer
À part la vente directe à la ferme.
Alors tout... justement, cette vente directe, qu'est-ce qu'on y trouve comme produit?
Bah, tout le, essentiellement le porc au détail, parce qu'on le transforme, on le fait abattre à chalet, on va récupérer les carcasses et on découpe à la ferme dans le labo qu'on a fait quand on s'est installé. Et après, il y a le porc et tout ce qu'on a dit tout à l'heure, la farine, le pain, les plats cuisinés, les pâtés, les grillons. Voilà.
Ouais, c'est toi qui les prépares tout ça?
Oui, tout ce qui est charcuterie, c'est moi, tout ce qui est pain et farine, c'est Antoine.
D'accord, on trouve pas de légumes, les légumes de saison.
Les légumes de saison,
T'as des poules peut-être aussi?
Il y a quelques œufs, il y a des poules, ouais, il y a un peu de volaille.
Ouais.
Voilà.
D'accord. Donc,
Et est-ce qu'on trouve essentiellement sur l'exploitation ces produits, ou est-ce que vous les vendez aussi à l'extérieur, style les marchés ou dans des magasins spécialisés?
Alors tout ce qui est le porc, c'est vendu essentiellement à la ferme, et on arrive à trouver des... on met en vente à Biocoop, à Soyaux.
D'accord.
Tout ce qui est pâté, grillon. Et tout ce qui est légumes, on les met au Super U à Montmoreau, Villebois, Châteauneuf. Et eux, on vend les légumes chez eux aussi.
D'accord.
Oui, j'avais été une fois à Biocoop justement et je ne savais pas quelle était les parce qu'il y a ton affiche, enfin tu sais,
oui, sur le comptoir, verres,
voilà, exactement. Et j'avais demandé au boucher, je me disais, qu'est-ce que vous vendez de la ferme des Templiers? Et malheureusement, c'était un intérimaire qui ne pouvait pas me répondre. Bon, ben, du coup, j'ai rien pris. Parce que je me suis dit, si c'est le porc qui est là, je vais prendre effectivement quelque chose. Mais,
ouais, non, il n'y a que les bocaux.
D'accord. Donc la prochaine fois, je prendrai les bocaux alors.
Voilà.
Mais j'irai chez toi pour prendre du porc, parce que manifestement, j'en entends pas parler autour de moi. Il est divin. Il est peut-être un petit peu plus cher de ce que l'on trouve effectivement en grande surface. Mais en tout cas, il y a une qualité dans l'assiette qui est...
Le prix vaut la qualité.
Tout à fait. Et tu n'as jamais essayé de faire des deals avec des restaurants
On travaille un peu avec le restaurant, enfin quelques restaurateurs, mais après, mais le prix est là en fait, il y a un surcoût qui les freine un peu, on va dire, entre guillemets.
D'accord, des restaurants peut-être gastronomiques?
Oui, ben, le Châtelard.
Ah oui, oui, en effet. Ok, voilà. C'est ça.
Mais en fait, ça va, vous arrivez à en vivre régulièrement sur toute l'année?
Ben, le porc, on en vend toute l'année.
Ouais.
Et après, ouais, on arrive à écouler tout ce qu'on a besoin d'écouler et à vivre, on va dire, que pour le moment, on va payer tout ce qu'on doit et après, on verra.
Alors justement, au niveau du salaire, est-ce que c'est décent, le salaire que tu te dégages mensuellement?
On est en phase de lancement, alors c'est un peu compliqué, mais... J'espère d'ici 4-5 ans, ouais, pourra sortir un salaire correct, on va dire,
d'accord,
entre guillemets. Quoi.
D'accord, ok. Les stagiaires que tu accueilles sur ta ferme, il y en a combien à peu près dans l'année que tu accueilles?
Ça dépend complètement des années, en fait. Mais l'année dernière, on en a eu deux. Là, on en a un qui va arriver en début d'année, pour de l'oisellerie.
Oui.
Voilà.
Donc du coup, on peut pas parler que vous êtes employeur de main d'œuvre.
Non, pas spécialement. Mais...
Voilà, même s'il y a des besoins malgré tout, parce que avec toute la mécanisation que ça demande, arracher des herbes, enfin bon, prendre soin et plutôt manuellement, à ce moment-là, oui, ça demandera peut-être dans un proche avenir à prendre quelqu'un, pourquoi pas en apprentissage.
Oui, pourquoi pas un apprenti, ce serait intéressant de partager toutes nos connaissances, même si on connaît pas tout, mais de partager tout ce qu'on fait avec un apprenti, c'est toujours intéressant. Ouais, l'expérience.
Mmh. Ouais. Ouais, tout à fait.
Moi j'étais content d'avoir fait de l'apprentissage, d'avoir appris aussi, donc je suis tombé, enfin avec Antoine on est tombé sur des bons formateurs entre guillemets, donc on a toujours envie de transmettre tout ça aussi, quoi.
Mais justement Baptiste, en même temps je rebondis sur une question qu'on n'a pas posée au début, on aurait pu, qu'est-ce qui t'a amené en fin de compte à vouloir faire ça? Parce que tu nous as dit tout à l'heure, si j'ai bonne mémoire, que tes parents ne le faisaient pas et que tes grands-parents le faisaient.
Ben, en fait mes parents vivaient sur la ferme des grands-parents.
Donc, ouais. Mais il y a une génération qui a sauté quand même voilà. ce travail.
Voilà.
Donc toi, qu'est-ce qui t'a donné envie en fait au tout début, quoi, dans ta tête?
C'était un peu, c'est une passion, je pense. Enfin, je pense que agriculteur, c'est une passion avant tout,
ouais.
je pense, parce que c'est travailler des heures sans avoir forcément le salaire qui va avec, quoi.
Et c'est marrant parce que d'habitude on dit agriculteur de père en fils. Et là, ça n'a pas été le cas, en fait. On a sauté une génération.
Ça peut sauter une génération, en mmh. effet. Oui. Mais l'avantage aussi, c'est que tu étais dans la ferme. Donc, quelque part, tu étais aussi...
t'es peigné dans le bain,
voilà,
en fait.
Voilà, ouais. tu étais dans ce cocon-là. Donc,
oui, après, ouais, c'est...
Il y a la relation aussi avec le grand-père qui est là, la transmission peut-être aussi du grand-père, et puis tu aimais peut-être aussi travailler en plein air.
C'est ça, exactement.
Tu trouvais du sens, c'était une évidence pour toi.
Oui, voilà, ouais, c'est plus agréable d'être en plein air que d'être dans un bureau toute la journée, quand même.
Ça dépend pour qui.
Oui, ouais. voilà.
Moi, j'aime bien mon studio.
Ouais, enfin, moi qui ai un peu de soleil.
Ah, c'est vrai que là, il n'y a pas à dire, hein. Il y a peut-être des jeunes, sûrement même, qui nous écoutent, malgré que notre audience, c'est plutôt des personnes plus âgées. Mais s'il y a des personnes, justement, jeunes qui nous écoutent...
Ou même des personnes âgées qui peuvent en parler aux jeunes.
Voilà, ou même encore des actifs, hein, des mmh. 40-50 ans, qui peuvent peut-être se reconvertir dans un autre travail. Mmh. Qu'est-ce que tu leur conseillerais comme filière, en tout premier lieu? Par quoi faudrait commencer? Alors l'envie, ils l'ont peut-être.
Ouais, l'envie est faire.
Mais après,
faire parce qu'on est passionné finalement. Si on n'aime pas les animaux, autant pas en faire. Si on n'aime pas les céréales, autant pas en faire. Faire la chose qui passionne le plus finalement.
L'animal qu'on préfère.
L'animal qu'on préfère. Moi, je trouve que je suis plus.
Sandrine, c'est le porc. Hein.
Non. J'aime tout.
Non, moi, c'est vrai que j'étais plus passionné de céréales, Antoine d'élevage, donc on a trouvé un bon compromis. Mais voilà, mais faut être vraiment, faut faire les choses qui nous tiennent à cœur.
Oui, voilà, il faut vraiment...
Si on doit faire un truc qu'on n'aime pas, on ne le fait pas comme il faut, de toute façon.
Tout à fait. Quel que soit le choix du métier qu'on fait, de toute
oui,
façon.
Oui, que ce soit n'importe dans... C'est valable dans tous les métiers, finalement.
Mais pour démarrer quand même une exploitation, ce qu'on n'aime pas, on ne peut pas le savoir, puisqu'on n'a pas démarré.
On doit le savoir quand même, si on n'aime pas les animaux.
Les jeunes qui écoutent, je ne sais pas, il y en a peut-être 15
ans, 16 ans. Alors, il y a des possibilités de faire des immersions. Alors, en effet, on peut effectivement se rêver être producteur de porcs, on aime les porcs, et puis on veut justement en élever. Mais on n'a jamais baigné, on n'a pas de grands-parents, on n'a pas de parents agriculteurs.
C'est ça.
Donc on a la
possibilité. Là, c'est l'ANEFA qui intervient.
Alors l'ANEFA, Pôle emploi, mission locale, on travaille tous de concert hein, ensemble, et de faire des immersions terrain. C'est-à-dire qu'on appelle ça une PSMP, enfin bon, immersion terrain, parce que c'est assez barbare. Et du coup, on découvre le métier, on va voir si en effet, par rapport au rêve qu'on se faisait du métier, correspond à ce qui se pratique dans la réalité. À la suite de ça... On peut se renseigner sur différentes formations et enchaîner sur une formation appropriée, que ce soit au sein des MFR ou au sein donc, de l'oisellerie qu'on a reçue justement ici dans ces, oui. dans ces studios. Ou ailleurs aussi dans d'autres départements, parce qu'il n'y a pas que la Charente. Hein. Si la personne est mobile, il y a d'autres départements comme la Dordogne. C'est là où tu as suivi justement tes études, qui ouais. proposent des formations aussi agricoles. Donc voilà. Et nous, l'ANEFA, on peut les accompagner dans leur réflexion. Et ensuite... Après, évidemment, il faut trouver le maître de stage, c'est par rapport à un contrat d'apprentissage. Mais là, on est là justement pour pouvoir les accompagner et aussi les aider à trouver un maître de stage, tout comme fait le centre de formation pour les aider à trouver un maître de stage.
Donc, vous voyez, si mesdames, messieurs, vous êtes intéressés par ce genre de profession, n'hésitez pas justement à contacter Sandrine à l'ANEFA et vous serez très bien aiguillés.
Au 05 45 61 90 37, c'est Françoise qui vous répondra.
Ah, avec sa voix de velours. Vous êtes toujours sur RDC, on continue notre émission. Dans un instant, on retrouvera justement Baptiste et Sandrine. Si on écoutait un peu de musique.
Ah, avec plaisir.
Une deuxième chanson.
Une deuxième chanson.
C'est la grande Sophie qui interprète Une vie. Je ne connais pas du tout. On va découvrir.
Ne soyons pas ridicules, voyons-nous encore demain. Une vie, on n'en a qu'une. Toi et moi, prenons-en soin. Ne soyons pas ordinaires, droit debout face au destin. Une vie, on n'en a qu'une. Des chagrins, on en a plein. Comme ça, plein, toi, raconte-moi.
êtes tarés, les gars.
N'ayant aucune amertume, le temps passe comme un train. Une vie, on n'en a qu'une. De rocher ou de satin. Ne soyons pas vulnérables. Si le temps est incertain, une vie, on n'en a qu'une. Des soucis, on en a plein. Toi, tout près de moi, j'écoute plein. Toi, à mon oreille, plein. Toi, je sais que tu vas mieux comme ça. Plein. Toi, raconte-moi des choses. Plein. Toi, j'attends ton appel. Plein. Toi, je sais que tu vas mieux comme ça. Ne prenons pas l'habitude, tous les deux, de rester loin. Une vie, on n'en a qu'une. Nous ne sommes que deux humains. Nous marchons droit sur la ligne, à la croisée des chemins. Une vie, on n'en a qu'une. De l'amour, on en a plein.
Il est 12:45 sur RDC. Vous venez d'entendre la grande Sophie avec la chanson Une vie. Vous êtes aussi avec l'ANEFA une fois par mois, vous le savez. On reçoit Sandrine Boineau de l'ANEFA. On peut parler en quelques mots de l'ANEFA d'ailleurs, parce que pour ceux qui nous rejoignent peut-être maintenant et qui n'ont pas entendu les émissions auparavant, on ne sait jamais. Donc c'est toujours bien de faire un petit rappel.
Ok, alors l'ANEFA, c'est une association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture. Pardon. Et notre rôle, c'est de promouvoir les métiers et les formations agricoles et aussi de recruter pour le secteur agricole de la Charente. On fait partie d'un réseau national qui se décline en région et en département. Au sein de l'ANEFA, au sein de la Nouvelle-Aquitaine, il n'y a qu'un département qui n'est pas représenté par une structure, mais qui est géré par nos collègues de la Dordogne. C'est le département du Lot et Garonne. Nous avons un site où on diffuse les offres d'emploi qui est www.lagriculture-recrute.org et vous pouvez retrouver toutes les offres de la Charente, mais pas que, aussi de toute la France.
Tu n'en as pas amené d'ailleurs des offres d'emploi ce matin ?
Et si, justement.
Ah, il y en a.
J'en ai amené. On recherche actuellement un technicien d'élevage caprin. La référence, c'est OCA 122-968-16, lieu de travail à Lessac. Pour l'instant, c'est un CDD temps plein de 6 mois, mais c'est en vue de s'associer concernant justement un élevage caprin et bovin lait pour donc s'occuper de ce cheptel, traire les vaches et aussi les chèvres, soins alimentaires, soins et alimentation des animaux, je vais y arriver, conduit de tracteur pour distribuer le fourrage, réaliser des travaux dans les champs, labour, semis, récolte et foin, aide au mistbah, entretien des pâturages. Le poste nécessite d'être autonome, vigilant, méticuleux et d'avoir l'initiative sur toutes ses tâches. Une expérience et CAP souhaitée, mais pas impératif. Une formation en interne peut être dispensée. Le temps nécessaire qu'il faudra au nouveau salarié, futur associé. 35 heures hebdomadaires, c'est annualisé aussi. Et aide à la recherche d'un logement local pour les candidats lointains. Vous voyez que les agriculteurs
c'est
sont
bien.
Quand même sympas.
Ah oui, c'est sympa, oui.
Le poste est à pourvoir le 6 janvier et le salaire minimum est de 10,52 à négocier. 10,52 de l'heure à négocier selon le profil. D'ailleurs, Baptiste, là j'étais en train de lire l'offre, j'ai vu l'aide au misba. J'ai vu qu'il n'y a pas longtemps, tu avais des petits porcelets.
Oui.
Je fais une.
Tu vois qu'elle aime, elle aime les porcs, Sandrine. Tu vois, je l'avais dit tout à l'heure. Hein. On non, y revient.
Je suis son actualité sur sa page Facebook et hop, il y a une vidéo là-dessus et c'est adorable. Voilà. Il en est combien à peu près tout au long de l'année
Entre 15 et 20.
15 et 20, d'accord.
Voilà, et après, ouais, c'est des races qui sont pas très prolifiques.
Ouais.
Parce qu'on a en moyenne entre 4 et 6 petits par truie, en fait.
Par truie, ouais, d'accord.
Donc là, il y en avait 8, c'était un peu exceptionnel.
Ouais, j'ai vu ça.
Oui, on a mis ça sur la page Facebook, on a partagé ça.
Ouais, c'est adorable.
Oui.
Et du coup, vous avez combien de porcs là actuellement sur l'exploitation?
Il y a 5 mères et un verra.
C'est le mâle, ça?
Le papa.
D'accord.
Et après, en petit, je sais même pas combien il y en a, en fait. Il y en a plein.
C'est bien, ça. Donc, ils vont avoir le temps.
Il y en a une quarantaine au total. Entre 40 et 45 cochons au total, en fait. Donc,
D'accord. Ok.
De tous âges, tout confondu, tout le monde est mélangé.
Donc là, ils gagnent en muscles.
C'est ça. Ils galopent dans les bois en ce moment. Ils sont à la chasse aux glands.
Ah oui.
Donc,
Bah oui.
Oui.
Comme le ceux de la Corse.
Il faut que je vous raconte une anecdote.
Oui.
J'ai un ami qui avait une ferme par ses parents, en Dordogne justement, pas loin de Thiviers, tu vois, à peu près. Et il avait des cochons lui aussi. Et en fait, un jour j'y vais dans sa ferme comme ça, et je vois ses cochons, et il y en a un qui m'attire plus que les autres. Je lui trouvais qu'il avait des yeux d'humain. Mais vraiment, des yeux d'humain, quoi. Alors, je ne sais pas si les tiens, Baptiste, ont des yeux d'humain, tes cochons, mais là, ça ressortait vraiment. Tu aurais cru vraiment un humain quand tu le regardais dans les yeux. Je voulais le caresser, il m'a dit non, mets pas ta main parce que ça mord et tout, attention, tu peux te... Voilà. Et quelques temps après, je suis retournée, j'ai dit, il est où mon cochon des yeux d'humain? Eh bien, on l'a mangé, voilà. Ils l'ont tué et j'ai pleuré parce que je trouvais que ouais, pour un cochon, on pleure pour un cochon de complètement cinglé.
Non, c'est pas cinglé, non du tout. On est
Est-ce
sensible.
Que justement pour les cochons, Baptiste, c'est vraiment du bétail ton gagne-pain ou est-ce que tu t'attaches peut-être des fois à certains animaux?
Alors c'est pour gagner quand même de l'argent, mais on essaye de les élever dans les meilleures conditions possibles en fait. On met tout en œuvre pour qu'ils soient le mieux possible. C'est vrai qu'ils sont adorables quand on est avec eux, ils viennent se faire gratter, caresser. Enfin,
ça doit être dur après de devoir les tuer.
C'est dur, mais après, voilà, ils ont une belle vie. Et quand on est éleveur et qu'on aime les animaux, on les élève du mieux possible, je pense. C'est vrai que...
Vas-y.
On entend parler souvent des fois à la télévision que la viande se vend moins, la charcuterie également. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu as senti que justement il y avait des pertes ou est-ce qu'il y a une augmentation?
Ouais, je pense que les gens ils veulent acheter de la viande de qualité. Donc après, moi comme on se lance, c'est vrai que ça fait que 3 ans, mais on voit que ça se développe tranquillement, mais sûrement.
Oui, donc pour toi, il n'y a pas de perte.
Voilà, oui. Ça fait que monter crescendo, mais tout doucement. Donc,
donc c'est bon, c'est impeccable.
Bon, oui. Alors justement, un animal qui est malade sur ton exploitation, comment tu le gères? Tu as des huiles essentielles? Parce que comme c'est l'agriculture biologique, il y a peut-être, on ne peut pas lui donner peut-être n'importe quoi.
Alors on peut lui donner quand même, enfin si vraiment, on essaye de les soigner le plus naturellement possible déjà à la base. Mais s'il y a vraiment des choses plus graves, en fait, on fera des antibiotiques quand même, quoi, parce que ça reste quand même des animaux et il faut les soigner du mieux possible. Mais après, les délais d'attente avant l'abattage sont doublés par rapport au conventionnel.
C'est-à-dire?
Ben, sur un produit, s'il faut je veux dire, 30 jours pour un animal en conventionnel, on sera à 60.
Ah oui, d'accord.
Pour éliminer vraiment toute trace.
Tous les médicaments, les antibiotiques qui auraient été donnés à l'animal.
Voilà, oui. Mais on évite vraiment au maximum, on essaye de les soigner comme ça, mais si vraiment il y a besoin, on le fait quand même, quoi.
Et quand tu dis soigner comme ça, c'est-à-dire qu'est-ce que tu donnes?
On leur donne tout ce qui est vermifuge, c'est un mélange d'herbes, d'ail, qu'on achète à un fournisseur qui fait des vermifuges bio, en fait, qui marchent pas trop mal finalement, même plutôt bien. Des minéraux, on essaye de les nourrir le mieux possible, en fait, pour qu'ils soient plus forts et plus combatifs. Mais c'est une race assez rustique dans l'ensemble. Donc, Et puis, ils ont une alimentation très variée. Ils ont un triticale orge pois mis en farine le matin. Ils ont, comme on fait des patates, toutes celles qui sont abîmées, on les fait bouillir. On leur donne des patates bouillies. Comme on faisait autrefois, finalement, on leur donne de la luzerne fraîche. Vraiment l'alimentation des cochons d'autrefois.
Oui. Donc, mes grands-parents, c'était ça.
Oui, voilà, on n'a rien inventé, nous.
Oui, tout à fait.
Et ça s'en ressent, je pense, sur le goût de la viande aussi. Quoi.
Automatiquement. Ouais, ouais.
Oui, donc.
Bruno?
Non, j'étais en train de regarder l'heure, excuse-moi, parce que je regardais à travers la vitre, je me dis, bah tiens, mais quelle heure il est? Et en fait, je regardais la vraie pendule. Il est 11h53, on va bientôt se quitter. On parlait tout à l'heure de la ferme, des produits donc qu'on peut trouver chez toi, et tu nous disais que c'était ouvert le vendredi matin, si c'est bonne
vendredi
mémoire.
Vendredi, toute la journée.
Toute la journée.
De 9h à 19h.
D'accord. Est-ce que... Alors, on peut peut-être donner un ordre de prix, par exemple, du plus moins cher au plus cher de ce qu'on peut trouver comme produit, pour nos amis qui nous écoutent et qui voudraient venir te voir. Et après, on va finir avec, bien entendu, leur donner rendez-vous à Fougue Brune.
Ouais, tout ce qui est saucisse, nature ou épicée, on est à 18 euros le kilo. Côte de porc et Chine... 18 euros aussi.
Il n'a pas pris ça le soir avant de venir.
Les rôtis, les rôtis on est à 24 euros. Et après, tout ce qui est le, on fait des grillons frais, des grillons charentais, à l'ancienne un peu. On est à, en frais, on est à 20 euros le kilo. On fait des boudins, de temps en temps, des vrais boudins à l'ancienne, coupés au couteau, nature et aux châtaignes.
Oh là là.
On pourra se faire un boudin, Sandrine.
Quand est-ce que t'en fais des boudins là,
j'en fais le 6 décembre. Okay. Ça, c'est vraiment ponctuel. Par contre, c'est vraiment beaucoup de travail pour les faire en amont. Donc, c'est vraiment le 6 décembre, il y aura des boudins à la ferme.
Donc, tu seras bon 6 décembre. 6 décembre, j'emmène voir les cochons à Sandrine.
Ouais, ça coûte combien?
On est à 23 euros le kilo sur les boudins.
Ouais, d'accord.
Voilà, parce qu'il y a beaucoup de viande. Ça marche très, très bien.
Ouais.
Ben voilà,
tu vois, châtaigne, tu vois, châtaigne, je connais pas, mais
tu vois,
je
veux bien... c'est un petit coup sucré dedans et c'est intéressant.
Je veux bien découvrir.
Ça donne faim en fait.
Avec une petite purée.
Ça tombe bien, c'est bientôt midi. Je sens que dans les chaumières, ça sent bon. Là, les gens ont préparé les repas, tout va bien. Qu'est-ce que tu vas manger à midi, Baptiste? Tu sais pas?
Bonne question, non, je sais pas.
Du cochon, non?
Pas forcément.
Peut-être. Du boudin, non, boudin, c'est pas encore.
Non, c'est pas encore.
On trouve aussi du pain, enfin, il y a
du pain,
une
ouais,
diversité.
Des brioches, de la farine, la farine de blé, enfin, de blé et de blé ancien, des betteraves rouges cuites sous vide, prêtes à manger.
Ah oui.
Des pommes de terre, des poireaux, des oignons.
Okay. Oui, c'est ça, les légumes que tu as cités tout à l'heure.
Voilà, ouais. Légumes qu'on fait, ouais. Voilà. Ouais. Il y a du jambon de pays, du jambon sec, du moins.
Mm-hmm. De la soupe toute prête avec les légumes, non, il y a pas
de
ça.
La soupe, il y en avait, faut que, ouais, il y avait, on faisait potiron, de la soupe à l'oignon.
Ouais. Tu vois que tu oublies des choses.
Oui, il y a tellement de choses, le problème c'est que c'est pas facile de.
Mais en même temps, c'est beaucoup mieux de découvrir par nous-mêmes.
C'est ça exactement, en plus la gamme est assez variée, il y a tous les légumes secs, les lentilles, les haricots blancs, les pois cassés, les pois chiches.
Alors la petite mémé là qui est derrière son poste de transistor là, elle voudrait peut-être venir à Fougue Brune. Où est-ce qu'on te trouve?
Alors on est situé sur la route qui fait Angoulême-Montmoreau. Mais de toute façon, sur Google Maps ou Waze, on est référencé. Si on tape Ferme des Templiers, ça nous amènera directement dans la cour.
Voilà, donc mesdames, messieurs, retenez bien Ferme des Templiers.
Alors petite parenthèse, Templiers, pourquoi?
La Ferme des Templiers, parce que le ruisseau, juste en contrebas de la ferme, s'appelle le ruisseau des Temples. En face, la commune de Charmant, c'est une ancienne commanderie. Donc en fait,
autant des Templiers.
Voilà.
Ah oui, c'est pensé.
Le pont qui est sur la D674, juste à l'entrée de l'exploitation, c'était un ancien droit de passage des Templiers. Donc en fait, on est resté là et ça donne un petit côté mystère à l'exploitation.
C'est clair. Voilà. Il faudrait pas que les hospitaliers arrivent.
Non.
Ce matin, dans cette émission, c'était Baptiste Lanterna, notre invité agriculteur à la ferme des Templiers de Fougue Brune. Si vous voulez encore en savoir plus, vous pouvez l'interroger vous-même en allant le voir par exemple à la ferme le vendredi, on vous le rappelle, toute la journée. À partir de quelle heure?
9h.
Jusqu'à
19h.
19h, merci. Il vous parlera comme ça de tous ses produits. Lui donnez pas trop la jambe hein, parce que c'est quand même un métier de vente et donc il faut vendre aussi. Et puis j'ai Sandrine avec moi. Et c'était notre dernière émission, Sandrine.
Eh oui, en ta compagnie, puisque le mois prochain, le 5 décembre, pour être précise, je reviens.
Ouais.
J'ai déjà la date. Je reviens faire l'émission avec Jean-Marc, donc à 11h le jeudi 5 décembre.
Mais c'est la veille du boudin, ça.
Oui, c'est la veille du boudin. C'est la veille du boudin et en plus de ça... Ah mais oui, mais alors du coup, c'est un vendredi le 6.
Oui.
Ils seront prêts le vendredi pour la vente ou il faudra attendre un peu plus?
Non, le vendredi. Ils seront prêts le vendredi.
Tu m'accompagnes?
Ah ben, il faut voir. C'est que le vendredi, moi, je suis ici.
Ah oui, jusqu'à quelle heure?
Jusqu'à midi et demi.
Ah ben ça après... reste tout l'après-midi quand même.
Alors après, c'est bon. Il me reste l'après, mais oui,
quand
Baptiste,
même.
Je viendrai
après
te voir. Promis, je te promets.
Après en la plus, sieste, comme... mais moi, je viendrai après mon boulot, après 17h alors.
Ah, avec plaisir.
Bon, on te gardera un cochon, ma petite Sandrine. En tout cas, j'étais très heureux de travailler avec toi, tu le sais.
Ah, moi aussi, c'est partagé.
On reste en contact.
Absolument.
Parce qu'on vivra peut-être des aventures hors antenne.
Absolument, t'as mon
ensemble.
Portable.
Voilà.
T'as mon adresse mail.
Merci pour tout.
Bah, merci à toi.
Mon cher Jean-Marc, parce que quand même, il faut qu'on arrive à t'entendre.
Oui, bonjour.
Alors, je te donne le relais avec Sandrine.
pas de souci.
Fais bon usage de ma Sandrine.
Il n'y a pas de souci.
Voilà, je sais que ça va bien se passer.
Bien sûr.
Et oui, et auditeurs, auditrices, d'ailleurs, si, vous ne savez pas, mais si Sandrine passe au jeudi, c'est tout simplement parce que depuis le départ de Michel et Pierrette, avec la réunion qu'on a eue il y a à peu près 2 mois, ça a été décidé que le jeudi était destiné aux invités, justement, aux intervenants extérieurs. Donc l'amandier, l'ANEFA, le médiateur qui doit arriver sur nos ondes, etc. Tout est le jeudi. Et donc voilà pourquoi Sandrine change de jour et que je la perds parce que moi, jeudi, je ne travaille pas.
Ouais, oui.
Et ouais, voilà.
Mais on ne se perd pas.
Mais tu pourras revenir quand même, Bruno.
Bien sûr.
Ça sera avec plaisir.
Bonjour à Françoise aussi.
Ok, hein, je transmettrai.
Voilà, d'accord. Et puis au président, et puis à tous ceux qu'on connaît, et puis très voilà. Bien. Merci ma Sandrine.
Merci à toi Bruno.
Merci Baptiste.
Ben, merci beaucoup. À
merci Jean-Luc d'avoir fait la technique.
Merci Jean-Marc.
On approche de midi. Cet après-midi, n'oubliez pas, c'est Yann que vous retrouvez dès 14h avec RDC fait son cinéma. Et vous le retrouverez pour la suite de l'après-midi avec à la bonne franquette des musiques d'hier et d'aujourd'hui. Moi, je vous retrouve vendredi matin avec quelque chose d'exceptionnel. C'est Cap Emploi, l'association pour les personnes handicapées, qui seront avec moi dans la matinée de vendredi de 10h30 à midi. Jean-Marc aura l'occasion demain de vous en parler plus en détail. Bon appétit, mes amis, je vous adore.
Au revoir.
Il est midi sur RDC.